On retrouve Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse, pour prendre des nouvelles du Canada francophone. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Ottawa veut attirer plus de travailleurs francophones dans les domaines technologiques à l'extérieur du Québec.
Oui, le gouvernement fédéral a confié au Conseil des technologies de l'information et des communications la tâche de cartographier les talents francophones dans le domaine de l'informatique et des communications à travers le monde. D'après ce qu'on nous a dit, c'est qu'on regarde surtout du côté du Cameroun, mais aussi du Sénégal, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Selon certains intervenants en immigration à qui on a parlé, c'est une bonne idée parce qu'il y a effectivement des écosystèmes technologiques assez importants dans ces régions-là. L'autre avantage, c'est que l'informatique, ça fonctionne sensiblement partout pareil dans le monde. Donc, le transfert de connaissances et de talents se fait beaucoup plus facilement qu'en médecine, par exemple. Par contre, on a parlé aussi à une chercheuse de l'Université d'Ottawa, Louisa Véronice, qui dit que le gouvernement met un peu la charrue devant les bœufs parce qu'on veut stimuler ce domaine-là de l'économie sans constater vraiment une pénurie d'emplois dans le domaine. Elle pose la question, est-ce que c'est vraiment un domaine francophone? Parce que selon les entrevues qu'elle a fait avec des immigrants qui travaillent dans ce domaine-là, 95% du temps, leur emploi, leur vie de travail se passe en anglais, puis il y a un petit 5% qui peut être fait en français, surtout quand ils ont affaire à des clients qui sont francophones et qui font affaire avec leur entreprise et qu'on c'est à eux qu'on les confie. Pour garder ces nouveaux travailleurs-là attachés à la francophonie, si on veut qu'ils s'intègrent et qu'ils deviennent des Canadiens francophones, ça retombe encore sur la responsabilité retombe sur les villes et les communautés où ils s'installent.
La Cour suprême entendra la cause concernant la fermeture des tribunaux de la péninsule acadienne. On en parle dans l'Acadie Nouvelle.
Oui, je pense que vous avez touché un mot sur cette cause-là, mais là, c'est qu'on a eu la confirmation la semaine dernière que la Cour suprême allait le recevoir. Donc, en 2021, le gouvernement Higgs du Nouveau-Brunswick avait décidé de fermer les palais de justice de Caraquet et de Tracadie, puis de déménager la plupart des travaux et des dossiers au palais de justice de Batters, là, qui, dépendant où on est sur la péninsule, est à une ou deux heures de route. Ça entraîne donc plus de déplacements pour les avocats, les accusés, puis les plaignants, principalement francophones de la région acadienne. Le Forum des maires de la péninsule acadienne a contesté cette décision-là en cours en disant que leur argument, c'est que ça réduisait l'accès à la justice à la minorité francophone, ce qui va à l'encontre de la Charte des droits et libertés, très précisément l'article 16 et 16.1. En première instance, la Cour du banc du roi du Nouveau-Brunswick a donné raison au Forum des maires. En appel, on a donné raison au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, le Forum des maires a fait appel devant la Cour suprême. Puis, c'est ce qui a été décidé la semaine dernière. La Cour suprême va se pencher officiellement sur la question. Le président du Forum des maires, Bernard Thériault, est heureux de la décision parce qu'il rappelle qu'il y a juste 6% des demandes de la Cour suprême faites à la Cour suprême qui sont acceptées, qu'elle reçoit. Donc, ils sont contents de juste pouvoir présenter leurs arguments. Ça va être un gain. Ça va quand même être à surveiller parce que la décision va préciser l'interprétation de la charte et l'application de l'accès à la justice pour les francophones partout au pays.
Sinon, le voyageur se questionne. L'hôpital de Sudbury est-il le symptôme d'un malaise dans la santé publique ontarienne?
Oui, parce qu'il se penche sur un rapport qui a été publié par l'Institut des politiques du Nord, là, qui est un espèce de think tank basé dans le nord de l'Ontario. Ce qu'eux ont découvert, l'Institut, c'est que les temps d'attente auraient augmenté à l'hôpital d'Horizon Santé Nord, qui est l'hôpital régional qui est basé à Sudbury. Donc, ça a augmenté au cours des dernières années. Par exemple, le chiffre qu'ils donnent, c'est qu'en 2020-2021, il fallait attendre en moyenne 2,6 heures aux urgences avant d'être admis. En 2024-2025, c'était déjà rendu à 7 heures d'attente. On souligne qu'en 2023, l'Ontario aussi était la province au Canada où il y avait le moins de dépenses par habitant pour les soins de santé. La ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, conteste les résultats de l'étude. Son argument principal, c'est qu'elle souligne qu'ils ont investi 101 milliards de dollars cette année en santé, puis que le budget augmente de 4% par année depuis 4 ans. Par contre, dans l'étude, on dit que les coûts pour les hôpitaux augmentent de 6% par année. Donc, l'augmentation du budget provincial ne suit pas l'augmentation de la demande. Il y a aussi la députée néo-démocrate de Nicole Belt, Frangelina, ça c'est un comté autour de Sudbury, puis elle est critique en santé pour les néo-démocrates en Ontario. Elle répète depuis des années, puis elle le redit dans l'article du Voyageur, que l'objectif du gouvernement Ford, c'est de faire rentrer le privé dans le système de santé de l'Ontario. Elle tient pour preuve les chirurgies du genou, de la hanche et des cataractes qui ont été confiées à des cliniques privées au cours des dernières années. Puis pour elle, le sous-financement, mais c'est simplement une façon de diminuer la qualité des soins pour que les gens se tournent de plus en plus vers le privé. Et évidemment, cette affirmation-là est démentie par le gouvernement.
Par ailleurs, l'urée des champs est un risque d'envergure pour les lacs des prairies, Julien.
Oui, moi, je suis un peu néophyte en agriculture, là, fait que le texte de l'eau vive m'a appris ce qu'était l'urée. C'est en fait l'engrais le plus utilisé dans le monde. Puis apparemment, ce n'est pas toxique. On pourrait même en boire sans danger. Ce n'est pas recommandé non plus, mais ce n'est pas dangereux. L'urée est utilisée surtout parce qu'elle contient beaucoup d'azote. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nocif pour l'environnement. Il y a une équipe de scientifiques de l'Université d'Regina et de l'Université du Manitoba qui ont publié une recherche dans la revue scientifique Nature Water, dans laquelle ils ont tenté de mesurer l'impact de l'urée sur les plans d'eau de la Saskatchewan. Avec les pluies et le ruissellement qui s'ensuit, les eaux apportent une concentration de plus en plus élevée d'urée dans les lacs peu profonds de la province. Ça peut permettre la prolifération d'algues qui se nourrissent d'azote, mais qui tombent dans le fond des lacs et en se décomposant, consomment ensuite l'oxygène de l'eau. Puis l'eau pauvre en oxygène, mais c'est plus hostile à la vie, puis ça peut favoriser la formation de gaz et de composés chimiques parfois toxiques. Selon le chercheur Peter Leavitt, c'est pas directement l'urée. Le problème, c'est plutôt l'aménagement du territoire. Il nous dit qu'en Saskatchewan, il y a plusieurs zones humides qui ont été drainées et asséchées pour permettre plus de cultures. Puis c'est les eaux de ruissellement qui s'en vont directement dans les lacs sans être filtrées par les sols des terres humides qui causent le problème. Pourtant, le gouvernement de la Saskatchewan veut continuer à drainer des zones humides, ce qui inquiète le chercheur.
Oui. Finalement, on passe de l'agriculture à la littérature. Commander des livres en français sans passer par les géants du web, c'est dans l'Aquilon.
Qui s'est entretenu avec Simon Dejoka, qui est chargé de développement de la francophonie canadienne pour le site leslibraires.ca. Il était à Yellowknife pour encourager ou parler de la création d'une plateforme similaire à leslibraires.ca pour la francophonie canadienne. Il a lui-même travaillé longtemps dans le Canada francophone, donc il dit avoir constaté que l'absence de livres généraux était une plainte récurrente. Mais on le sait, je pense que j'en ai déjà parlé aussi, les petites librairies francophones ont du mal à survivre. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, son idée, c'est de créer vraiment un réseau entre elles où on pourrait commander un livre, puis au lieu d'avoir un entrepôt centralisé qui coûte plus cher à gérer, chaque librairie participante pourrait remplir la commande à partir des livres qu'elle a en stock, puis faire l'expédition, puis au-delà d'un certain prix, la livraison serait gratuite. Il y a quand même certaines limites à ça. Par exemple, si on commande plusieurs livres qui ne viennent pas tous de la même librairie, bien, la livraison ne sera pas nécessairement coordonnée. M. Dujoka rappelle que le monde des libraires au Canada est fragilisé par les géants américains. Selon lui, utiliser une plateforme canadienne aiderait à découvrir des auteurs canadiens parce qu'ils ne seraient pas enterrés sous les milliers de titres d'autres pays et d'auteurs d'autres langues.
Une bonne idée à conserver, je crois.
Ah oui.
À suivre. Merci beaucoup, Julien. Passez une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci à vous aussi.